Ils savent que l'homosexualité, c'est condamné.
RFI.
Ils savent qu'on peut avoir des peines d'emprisonnement pour cela.
Grand reportage.
On est persécutés dans nos pays. Donc, ils savent réellement la réalité.
Parce qu'ils sont lesbiennes et gays, ils ont dû fuir leur pays où ils étaient persécutés. Mais arrivés en France, ils font face à d'autres difficultés, administratives cette fois. Ils doivent demander l'asile auprès des autorités françaises et pour cela, prouver leur homosexualité. Au centre LGBT de Paris, bénévoles et migrants travaillent à obtenir des régularisations qui s'avèrent quasiment impossibles. LGBT+ en France, une longue marche vers l'asile. C'est un grand reportage d'Alice Rouge.
Normalement, tu vas recevoir ça et tu vas recevoir une lettre qui va t'indiquer que tu as bien reçu ta demande d'asile, etc. Et alors, 15 jours après, tu recevras une autre lettre où on donnera le nom de l'avocat. Mais nous, comme on a demandé l'avocat... Tu vois,
les couleurs arc-en-ciel drapent le centre LGBT de Paris. Des demandeurs d'asile de toute nationalité se retrouvent autour d'un café dans ce local associatif en plein cœur de la capitale. Le centre fait partie des rares associations habilitées par les autorités françaises à les accompagner dans leurs démarches administratives. Régie par la Convention de Genève, le droit d'asile assure la protection des personnes persécutées.
Le centre ici, si tu veux, on est un petit peu... on est une maison, en quelque sorte. On est ouvert tous les jours de l'année. Et on reçoit toute la communauté LGBT. Et le principe, c'est qu'on accueille les personnes ici... Et on voit de quoi elles ont besoin et on essaie de répondre à leurs attentes. Quoi.
C'est l'heure du melting point, un exercice de formation pour passer les entretiens.
Bon, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit tour de table, sauf si vous avez d'autres questions à poser.
Dans la bibliothèque, nous, à l'étage, dimanche, autour d'une table ronde, les demandeurs d'asile Dini et Rosie, Souleyman, Achille et Daniel. Pour encadrer cette réunion, Hervé Latapie, l'un des bénévoles du centre.
Par rapport à vos démarches, expliquez bien dans quelle situation vous êtes, à quel moment vous êtes dans votre demande d'asile. Parce que c'est ça qui est important. Selon le moment où vous êtes, ben nous, on va pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Quoi. D'accord ?
Je m'appelle Daniel, et je suis né le 2 mai 1992.
Dans quelques jours, le timide Daniel va devoir se présenter à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la structure administrative qui autorise ou refuse l'asile aux demandeurs. Cette année, l'OFPRA a enregistré près de 100 000 demandes pour quelques 20 000 attributions.
Avant de venir en France, évidemment, j'ai été persécuté dans mon pays.
Devant l'officier de protection, Daniel va tenter d'expliquer de façon convaincante pourquoi il a quitté son pays, la République démocratique du Congo, pour se réfugier en France. Et comme il n'a droit qu'à un unique entretien, ce dimanche, l'heure est à l'entraînement.
Jamais ça s'est arrivé. Il était tout le temps. C'était ses obligations professionnelles qui passaient avant tout. Alors, quand j'étais chez ma mère...
Je vais t'arrêter.
Oui.
Je vais te dire pourquoi je vais t'arrêter.
Oui.
À l'OFPRA, ça se passe pas du tout comme ça.
D'accord.
C'est bien, je laisse parler tout le monde, mais toi, c'est pas pareil parce que tu passes à l'OFPRA dans une semaine. Quoi.
D'accord.
Vous pouvez lui dire comment ça se passe à l'OFPRA. Qu'est-ce qu'il fait l'officier pendant que vous parlez ?
Une note.
Voilà. L'officier, il est là, il a son ordinateur.
Oui.
Et il tape pendant que tu parles. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir raconter ton histoire comme tu la racontes à nous, comme ça, d'un trait, avec les détails, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il faut lui dire, lui, par rapport à ce que tu dis dans ton histoire ? C'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où t'es parti ? Pourquoi t'es parti ? Parce que si tu veux, les problèmes que t'as eu avec ton père quand t'étais petit, etc., etc., c'est pas ça qui t'a fait partir à l'âge adulte.
T'as écrit déjà ton histoire ?
Ouais.
Avec Maëlle, quelqu'un d'autre ?
Oui, on a travaillé avec lui, ouais.
Ah, elle a écrit déjà ?
Il est aidé par Souleyman.
Raconter son histoire, dire qui l'on est, là est bien toute la difficulté.
Chez moi, en Haïti, quand tu es homosexuel, ils te jugeaient que tu es le diable.
Massif comme un joueur de rugby, les muscles moulés dans une chemise bleue, John raconte pourquoi il a fui son île caribéenne.
Il y a un tremblement de terre qui a ravagé le pays. Ils l'ont dit, c'est à cause de nous, qu'on est péché. La chose qui m'a poussé à laisser mon pays, c'est qu'ils ont fait un tag sur la mur de ma maison. Ils vont dire qu'il va me brûler. Et je sais vraiment ce que les gens vont capables. Tout ça, il est arrivé un moment, j'ai travaillé. Il faut que je sorte de chez moi dès 4 heures du matin, sans que les gens ne me voient. Il faut que je rentre aussi vers 2-3 heures du matin. Mais ça, c'était pas une vie pour moi. Après, ils m'ont dit, pourquoi j'ai pas obligé de me cacher? Maintenant, comment? Je suis humain, je suis homme, j'ai une vie. Je ne peux pas me cacher pour vivre ma vie.
Si John a quitté Haïti à cause de son orientation sexuelle. Les jeunes femmes qui viennent au centre ont aussi subi des violences dans leur pays d'origine. Rama a subi excision, viol, mariage forcé. Elle vient du Sénégal, un pays où l'homosexualité est réprimée par 1 à 5 ans d'emprisonnement et une peine pouvant atteindre plus d'un million de francs CFA.
Pourquoi tout cela est arrivé, les mariages forcés? Parce qu'ils savent que maintenant la personne, elle est lesbienne. Donc du coup, pour t'enlever dans ce truc, on te met dans un mariage forcé.
Soumise aux mêmes violences, la nuque rasée et des tresses nouées au sommet du crâne, Esther, une Burkinabé, raconte son exil.
J'ai quitté chez moi depuis que j'avais 16 ans. Je viens, j'ai traversé la route, je suis passée par Mali, du Burkina, Mali, Mali, Algérie, Algérie, Libye, Libye, Italie, Italie ici. Et eux, ils me rejettent.
Eux, ce sont les officiers de protection de l'OFPRA, ceux qui s'entretiennent avec les demandeurs. Félix est un pilier du centre, c'est même un référent lors des melting points. Et pour cause, il est également en cours de régularisation. Affronter l'OFPRA, c'est un exercice qu'il maîtrise sur le bout des doigts.
Pour tous les demandeurs, la première question c'est « Pourquoi faites-vous une demande d'asile ?» Et quand tu réponds à cette question, si tu oublies d'inclure le fait que tu sois personne LGBT, pour eux d'abord c'est un motif de refus. Secondo, ils vont te demander à quel moment tu prends conscience de ton homosexualité. Ça veut dire quoi cette question? Parce que quand tu n'es pas préparé à ça, tu te dis, mais ça signifie quoi cette question? Et ils ont même une question qui est une question de ouf. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ton conjoint? Pourquoi tu l'aimais? On te demande pourquoi tu aimais cette personne en fait. Mais tu vas dire quoi? Quand on aime une personne, on ne sait pas pourquoi on l'aime. C'est des choses qu'on n'explique pas. Mais le frère te demande pourquoi tu aimes cette personne ou non, pourquoi tu aimais cette personne. Tu te dis, bon, ça je réponds comment? Pourquoi j'ai aimé cette personne? La réponse en vrai, elle n'existe pas, donc tu es obligé de trouver un truc. Et après, ils te disent à la fin, qu'est-ce que vous craignez en cas de retour dans votre pays? Comme si eux, ils ne savent pas ce qu'une personne LGBT, qui est déjà partie parce qu'il a été reconnu LGBT dans son pays, ils vont lui demander qu'est-ce qu'il craint en cas de retour dans son pays.
Là est toute la question. Comment prouver son orientation sexuelle? Peut-on disséquer des sentiments?
Un vrai amour, c'est quelque chose que qui n'a pas de raison au fait. Je suis fan de quelqu'un, je l'aime, et puis c'est fini, quoi. Est-ce qu'il y a une explication à l'amour réel? Ben non. Moi, je me dis, tous les amours qui ont été expliqués, ce ne sont pas des vrais amours. Parce que des vrais amours, c'est sans raison. Le cœur a ses raisons que la raison même ne comprend pas.
Si Rama ne peut pas prouver ses sentiments, elle peut parler des drames et traumatismes qu'elle a subis.
Moi, j'ai toujours peur des hommes, parce que quand un homme m'approche, je dis que tout de suite, c'est pour me faire mal, c'est pour me violer, ça fait mal. Et avec les filles, ça passait bien. J'avais ma copine au pays et tout était romantique, bien bon. Avec elle, non seulement il y a l'amour, il y a l'entente, il y a la confiance, il y a le besoin, il y a l'écoute, il y a tout au fait dedans.
Non, moi, je dis, je suis homosexuel, je suis gay, je suis... Voilà, enfin, voilà, il faut arriver à le dire. Alors tu vas t'entraîner devant ta glace le matin, tu sais. Mmh.
Tu choisis ce que tu mets à l'aise.
C'est ce que je dis à Achille. Tu te regardes, tu dis, je suis gay, j'en suis fière. Moi, voilà. J'adore le corps masculin, j'en rêve. Le matin et le soir. C'est pas que je suis gay, là, tu vois. Non.
Il semblerait qu'avec l'OFPRA, la sincérité, cela ne passe pas. Pour preuve, malgré les entretiens préparés et les récits argumentés, John, Esther, Félix, Rama et les autres ont vu leur demande d'asile rejetée. Leur déclaration aurait été imprécise et impersonnelle. D'après le bénévole du centre Hervé Latapie, c'est comme si les dés étaient pipés.
On a vraiment l'impression que les officiers de protection sont conditionnés pour refuser, pour rejeter. Et donc, quand ils interrogent les personnes, ce n'est pas des personnes bienveillantes, c'est comme des policiers. Ils sont dans le soupçon et ils cherchent la petite bête. En plus, c'est quand même des questions qui sont très délicates, quoi. C'est la vie privée, c'est la vie sexuelle, c'est des gens qui ont déjà été traumatisés.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas souhaité nous recevoir, ni même prendre nos appels. Dans cette structure où travaillent près de 800 officiers en charge de 100 000 demandes annuelles, la communication sur le fonctionnement est interdite et les officiers sont contraints à la confidentialité.
J'ai lu que sur votre essai écrit que vous êtes homosexuel. Dans quelles circonstances vous avez découvert ?
Dans un lieu tenu secret, nous avons rencontré Martin, un officier de protection, dont le prénom et la voix ont été modifiés pour assurer son anonymat.
Et c'était avec une fille en particulier ?
Avec lui, nous avons fait une simulation d'entretien.
Ça a commencé, je ne vous demande pas des dates précises, mais ça a commencé grosso modo à la fin de la primaire ou alors dès le début de la primaire. Finalement, c'est plus logique de sortir avec des garçons, c'est ce que veut la norme. Aujourd'hui, vous me dites que vous êtes une personne homosexuelle. Quand est-ce que réellement vous avez accepté pour vous-même cette attirance-là ?
Le poids de la hiérarchie est omniprésent. Donc du coup, on est soumis aussi à l'avis de nos chefs. Disons que on est quand même des exécutants aussi, hein, donc on exécute des directives. Ouais, c'est certain, mais à chaque fois, c'est une question d'individu, quoi. C'est tellement aléatoire, en fait. C'est tellement aléatoire, c'est une grosse machine. Donc on peut tomber sur des personnes qui pensent comme nous et avec qui ça va être très fluide. Et puis à d'autres moments, on peut tomber sur des gens qui n'ont pas du tout le même regard que nous sur l'asile. Et pour autant, c'est sûr que la personne qui aura le dernier mot, c'est le chef.
Une fois qu'il s'est entretenu avec un demandeur, Martin propose à sa hiérarchie un avis, favorable ou défavorable à l'asile. Le constat est sans appel, 9 fois sur 10, son accord est refusé. Mais le chemin de l'asile ne s'arrête pas là. Un recours juridique reste possible devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. En 2020, 70% des décisions négatives de l'OFPRA ont donné suite à un recours.
38 rue René Boulanger, 5 avocats, escalier A, étage 2F.
Au troisième étage d'un immeuble cossu, rencontre avec maître Héloïse Cabot.
D'accord, donc ça c'est avec les photos avec votre copine.
L'avocate est spécialisée en droit d'asile, elle plaide régulièrement devant la CNDA.
C'était quand ça ?
Ça c'est à Kinshasa, et ça une fois ici en France.
Elle est venue vous rendre visite ?
Oui.
Et vous ne pouvez pas lui demander ses billets d'avion ?
Je ne sais pas, à ces moments-là, c'est difficile. Hein.
Ce jour-là, elle prépare une audience avec Nadia. Rejetée par l'OFPRA, Nadia a fui la République démocratique du Congo il y a de cela 2 ans, à cause d'un mari violent et d'une famille la répudiant.
Bon, moi, je n'ai pas besoin de plus de détails sur les violences et comment ça se passait, les rapports avec lui. Mais à la cour, ils vont peut-être vous poser des questions. Je vous dis le type de questions qu'ils peuvent vous poser pour que vous soyez prête à y répondre. Ils peuvent vous demander, par exemple, comment ça se passait une journée type à la maison. Le mieux, c'est de donner des exemples. Après, ils vous demanderont pas d'exemples avec des détails, par exemple, sur les rapports sexuels. Hein. Ça, vous n'avez pas à en parler. Hein. Il y a des dossiers presque qu'on s'interdit de perdre, parce qu'on sait que... qu'on doit les gagner. Enfin, là, non seulement le parcours est clair, mais en plus, on a les documents qui viennent complètement accréditer les dires. Si la question, c'est l'orientation sexuelle et les risques en cas de retour, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Au contraire, même.
Là, c'est une partie. Mais comme une histoire, c'est tout un papier. Là, tu commences à faire... Ce sont des détails importants de la chronologie.
Préfecture, OFPRA, CNDA, autant d'instances à affronter et combien de temps à attendre ?
La découverte de ton homosexualité.
L'année aussi.
L'année aussi, donc voilà. Première expérience homosexuelle.
De retour au centre LGBT, les migrants sont unanimes. Les démarches prennent souvent plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années.
On est bien habillés, on marche, mais dans la tête, ça va pas. Ça va pas, ça va pas.
En fait, moi, je bloque beaucoup sur le temps qu'ils font perdre aux gens. Parce que ça fait un an, bientôt 2 ans que les gens vivent le confinement, ils n'en peuvent plus. Imaginez, nous qui vivons, notre vie, c'est un confinement.
2 ans, presque 2 ans, depuis octobre 2019, je suis ici. Je ne fais rien. Je n'ai pas droit à aller à l'école. Parce que moi, j'ai étudié, je ne vais pas aller apprendre à parler le français comme les autres. Je voulais faire l'école de la deuxième chance. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas droit aux formations. Je ne fais rien, je suis là seulement, je suis devenue une vagabonde dans le Paris, je tourne dans les associations, toutes les associations me connaissent ici.
Bon, c'est compliqué à gérer tous ces stress dans la tête. Vu qu'on vient déjà de nos pays dans le stress, et là on est en France, on est censé être libre, calme, vivre notre vie tranquillement. Et on se rend compte que le stress, c'est ici qu'on le trouve encore de plus. Franchement, c'est choquant et triste. Ouais.
Alors, pour aller du mieux qu'ils peuvent, les demandeurs d'asile essaient de ne pas être seuls. de venir le plus souvent possible au centre où ils ont tissé des amitiés.
C'est la première fois qu'elle est dans un cadre où, en tant que trans, elle se sent acceptée, famille, et tout, tu vois, voilà, et puis, ça lui plaît, jamais elle raterait, tu vois.
Ici, ils passent du bon temps, oublient leurs soucis et se surprennent parfois à espérer. C'est le cas de John, laïcien.
Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être, j'espère bien, que le gouvernement ou le gouvernement à venir vont changer des choses pour les immigrés. Franchement, j'ai souhaité ça. Esther, au revoir, à bientôt. D'accord. Tu vas faire quoi?
Je vais aller manger.
Moi aussi, je fais. Tu m'apportes de la nourriture? D'accord, je vais aller lui manger. Merci, bisous.
Fin mai 2021, le ministère de l'Intérieur a publié un plan dit « vulnérabilité ». Il détaille 10 actions pour mieux prendre en charge les personnes considérées comme fragiles, une catégorie englobant les personnes LGBT+, du fait des discriminations qu'elles peuvent subir, même dans leur pays d'accueil. Martin, l'officier de protection, n'en a pas encore entendu parler. Les bénévoles du centre n'y voient que des chimères, mais peut-être qu'un jour, le sort de ces demandeurs d'asile sera meilleur.
Parce que même, je me rappelle, à la Gay Pride, on a fait des banderoles où on a mis « Est-ce qu'on doit coucher pour montrer qu'on est gay ?» Si c'est le cas, on a tout savoir nos statuts.
LGBT+, en France, une longue marche vers l'asile. Un grand reportage d'Alice Rougeat. Réalisation, Pierre Chaffange.